Chali m'était conté. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à l'abbaye de Chali et reprenons un petit peu notre narration. Lors de la précédente émission, nous avions évoqué la vie quotidienne des moines de Chali qui, comme vous le savez, est ordonnée selon la règle de Saint Benoît de Nursie, établie d'ailleurs dès le VIe siècle, puis ensuite réanimée au XIIe siècle par Bernard de Clairvaux avec la charte de charité et son triple vœu, à savoir la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. On est, je vous le rappelle, dans le cadre d'une société médiévale fortement structurée, et Bernard étant lui-même de la classe aristocrate, eh bien, n'envisage pas un autre système social que celui dans lequel il vit au quotidien.
Pouvez-vous nous dire sur quel document vous appuyez vos recherches ?
Alors, c'est vrai que pour parler de la vie quotidienne, j'aurais pu me contenter de tout ce qui a été écrit sur la vie des moines cisterciens. Et croyez-moi, la littérature est abondante. Mais pour Chali, j'ai essayé de trouver quelques documents originaux. Entre autres, un manuscrit cistercien qui est conservé à la BNF et qui s'appelle le formulaire de Pontigny. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une très belle communication de Jean-Luc Benoît. On l'appelle aussi Jean-Luc Benoît, l'historien de Pontigny. Et il a permis ainsi, lors d'un colloque qui s'est tenu au collège Saint-Bernard à Paris, il a permis de porter à notre connaissance un document tout à fait intéressant. Et bien sûr, pour nous, encore plus, puisque Pontigny, c'est la mère de Chali. Hein. Je vous rappelle qu'il y a des relations comme ça, de mère à sœur, entre les abbayes. Et nous sommes donc à Chali, la fille de Pontigny. Et grâce à ce document, grâce à ce formulaire de Pontigny, on s'en rend mieux compte des relations qui existaient entre le monde clos, hein, le monde de la clôture, celui qui est fermé, du monastère, et le monde extérieur. Témoignage de la vie donc de l'abbaye à la fin du XIIIe, ce qui est intéressant, c'est que ce document présente entre autres toute une série de modèles de lettres administratives. Et si j'osais la comparaison, je dirais que ça ressemble un peu à ce que nous connaissons, nous, sous la forme des CERFA. Vous savez, vous devez remplir des documents administratifs pour une carte grise, un permis de construire, ou je ne sais quoi encore, un passeport. Déjà à cette époque, il y avait toute une série de lettres qui étaient pré-rédigées. On laissait simplement le nom des acteurs en blanc ou avec des pointillés. Et donc, ces formulaires étaient obligatoirement utilisés par les moines pour s'entretenir avec le monde extérieur. C'est quelque chose qui remet en cause, bien sûr, l'autarcie que l'on évoque en général quand on parle des monastères cisterciens. L'autarcie, c'est-à-dire qu'on on vit sur ses propres ressources et ses propres ressources permettent de vivre en circuit fermé, en quelque sorte. Mais ça, c'est un principe. Hein. La gestion de l'ordre nécessitait, bien entendu, des échanges économiques, nécessitait la gestion de nouveaux arrivants, nécessitait aussi l'organisation des religieux, les visites annuelles, l'accueil des autres, mais aussi, sur le plan judiciaire, le recours à des tribunaux civils, surtout lorsque des violences étaient exercées contre les moines. Donc, à chacune de ces situations que je viens d'évoquer, correspond un formulaire, hein, une lettre préétablie. Et là, je crois qu'on peut en conclure que les abbayes sont donc à la fois des lieux retirés, certes, mais en même temps, c'est un mot à la mode, hein, en même temps des lieux de passage incessants. Ces abbayes sont aussi des points de rencontre entre membres de la même famille monastique, d'ailleurs les cisterciens entre eux, mais aussi entre producteurs et distributeurs de ressources matérielles. Donc là, on est là dans le cadre de la production agricole, qui, on l'a vu, est très importante à Chali. C'est aussi, bien sûr, le point de rencontre entre des religieux. Si, pour eux, la priorité, c'est l'office divin, il n'en reste pas moins qu'ils vont souvent vers les laïcs pour solliciter des donations. Ces modèles de lettres prévoyaient donc, par exemple, la façon dont on devait concevoir une entrevue entre deux abbés, par exemple. Et vous avez une lettre, je vais vous demander de la lire, si cela ne vous dérange pas, qui est prévu, un formulaire prévu, lorsqu'un abbé rencontre un abbé. Alors, ils ne vont pas se raconter les histoires d'abbés, on va vous écouter.
Au vénérable père abbé de... L'abbé de souhaite le salut et la plénitude d'une charité spéciale dans le Seigneur. Comme nous avons à nous parler de certaines affaires, nous voulons prier la direction, grande affection, de votre paternité, de nous indiquer en le faisant savoir aux porteurs des présentes si vous savez quel jour nous pourrons nous trouver. Portez-vous bien.
Alors, en réponse, la réponse est prévue.
Au vénérable abbé de souhaite le salut et l'abondance de la direction. Selon la demande de votre considération, nous vous faisons savoir par cette réponse que, si vous le souhaitez, vous pourrez nous rencontrer tel jour, à tel endroit. Portez-vous bien.
Oui, alors, toutes les lettres se terminent de la même façon. Portez-vous bien. Alors, c'est une référence, certes, au texte religieux, mais aussi à d'autres textes philosophiques. C'est ainsi que Sénèque s'exprime à la fin de ses lettres. Un autre exemple, je crois, pourrait étonner nos auditeurs. Une lettre officielle pour remercier lorsqu'un moine a reçu un cadeau.
Comme, ainsi que le dit le proverbe, dans un cadeau, c'est l'intention qui compte. Nous vous remercions grandement pour la générosité de votre don. Mais nous voulons vous remercier plus encore pour l'intention amicale que votre considération nous manifeste. Et nous vous faisons savoir que nous jouissons d'une santé, d'une paix et d'une joie telles que nous les souhaitons humblement dans le Seigneur. Portez-vous bien.
Voilà. Alors, il y a bien sûr des lettres très officielles. Alors, quoi de plus officiel que lorsqu'on écrit au roi ? Et voici par exemple un modèle de lettre qui s'adressait à Saint-Louis, à Louis IX, avant qu'il ne soit sanctifié. Alors, je vous prie d'être un peu patient, mais je pense que vous allez être un petit peu étonné par cette lettre. « Nous rendons grâce au dispensateur de toute grâce, de ce que, plus que chez les autres princes de la terre, la charité de votre royal esprit s'efforce d'augmenter la très digne vénération pour les saints du Christ, si bien que grâce à son admirable foi, elle se réjouit d'honorer Dieu dans ses saints ou ses ministres avec le plus grand sentiment de dévotion et la plus grande munificence princière. » C'est pas fini. « Lorsque nous tournons la face de notre esprit vers le secret de notre cœur et que nous relisons en une étude attentive les merveilles des rois de la terre, plus que tous, votre bienveillante munificence et celle de vos enfants se présentent à notre mémoire pour être évoquées avec de dignes louanges, car elles ont accru pour notre maison un très grand nombre de généreuses faveurs pour venir en aide aux pauvres du Christ et nourrir les orphelins en détresse qui se restaurent chaque jour de la clémence qui tombe de la table du roi, tels d'humbles petits chiens de celle de leur maître, et qui rendent avec marque de reconnaissance d'abondantes grâces en témoignage de gratitude à celui qui, avec et envers notre maison et notre ordre, a disposé sa bienveillante volonté, conformément à sa dignité royale, de sorte que la grâce du divin dispensateur, que la langue de la chair peut à peine évoquer, accorde ce que nos mérites ne sauraient obtenir en faveur de ceux pour qui nous offrons chaque jour les encensoirs de nos prières au roi des cieux, afin qu'il fasse croître et qu'il protège notre Seigneur et le gouvernail de son royaume dans l'intérêt et la paix de ses sujets, et puisque le particulier déroge au général en faveur de votre personne, ainsi que la reine et vos enfants. Alors si ce modèle de lettre était fort bavard, hein, rappelons quand même que la règle du silence était un principe fondamental de la vie monastique, qui est, en général, ne pouvait être troublé que par le son de la cloche de la cymbale. Hein, la cymbale, c'est une pièce métallique que l'on frappe avec un maillet de métal ou de bois. Puis il y avait aussi des tablettes de bois que l'on tapait avec un marteau lui-même de la même matière. C'étaient les seuls instruments qui rythmaient la vie de la communauté. Pour l'anecdote, j'ai encore vu, il y a peu de temps, des moniales orthodoxes de Moldavie, où il y a ces merveilleux monastères, hein, donc au nord-est de la Roumanie, utiliser cette planchette de bois pour appeler les consœurs à l'office. Et d'une façon anecdotique, plus près de nous, dans la cathédrale de Noyon, un chanoine frappait sur une des colonnes de la cathédrale, plus sonore que les autres, pour appeler les retardataires au service de la messe, n'est-ce pas ? Plus sonore, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que plus une pile est chargée, donc plus elle supporte de poids, plus elle sonne dans l'aigu. Donc, si vous promenez dans un bâti médiéval, eh bien, vous toujours, je ne sais pas si ça complaira évidemment aux gens qui sont chargés de la surveillance, mais vous pourrez connaître un peu mieux le rapport de poids sur chaque colonne, simplement en tapant dessus. Hein, oui. Si ça vous donne un son extrêmement sombre, grave, oui. Bah, c'est une colonne peut-être qui ne sert pas trop par rapport à d'autres.
Ce sera juste avant de se faire renvoyer.
Alors vous frappez, vous sortez vite. Voilà. Alors ça nous emmène évidemment, tout logiquement, vers une grande partie de ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bâti médiéval. C'est-à-dire comment ces bâtiments se sont édifiés tout au long des siècles qui vont suivre. Alors bien sûr, il y a une première église, on en parlera, qui a été édifiée dans des conditions qui pour nous sont relativement obscures. On sait simplement dans les chartes qu'il devait y avoir beaucoup de bâtiments en bois ou beaucoup de bâtiments qui utilisaient du bois. Mais ce qui nous intéresserait un peu plus, c'est la deuxième église. Hein, lorsque le visiteur emprunte la Nationale 330, qu'est-ce qu'il voit de Chaly ? Ben, tout simplement, au bout d'une allée, une espèce de monticule de pierre qui correspond aux ruines de la seconde église abbatiale de Chaly. Hein, point terminé. S'il est un peu curieux, il devinera peut-être un peu plus loin la chapelle gothique, qui a d'ailleurs a fait l'objet de différentes restaurations. On l'appelle la chapelle Sainte-Marie. Pour l'église, la deuxième, nous n'avons hélas aucun plan d'abbaye royale médiévale, mais simplement une description au début du XVe. On a un plan sommaire de 1541, une gravure du XVIIIe, une description en 91, et une reconstitution du début du XXe, ce qui est fort peu. D'autant plus évidemment que là, je viens de parcourir 7 siècles. Et que, ben, comme tout bâtiment, il y a eu énormément de modifications. Alors, comment les choses se présentaient ? Ben, disons qu'à l'intérieur de la grande clôture, qui est elle-même enfermée dans une courtine, dans une muraille, il y a environ une trentaine d'hectares dans lesquels s'élèvent les bâtiments traditionnels de l'abbaye cistercienne. Si vous voulez avoir une idée quand même du plan de Chaly, vous consultez le plan de Clairvaux et vous le faites pivoter selon une symétrie axiale, hein, gauche-droite en quelque sorte, le nord au sud et le sud au nord, et vous aurez une idée de la disposition des bâtiments de Chaly telle qu'on peut la reconstituer. La seconde église abbatiale a été édifiée sur le point le plus haut. Alors évidemment, ce n'est pas une montagne, hein, on est dans un fond de vallée. Mais c'est vrai que l'église, comme partout, est en temps général édifiée sur le point le plus haut. C'est la raison pour laquelle on va trouver sur le point le plus haut d'autres bâtiments, ben le château, qui souvent rentre en concurrence. Je pense par exemple aux difficultés entre les châtelains de Nanteuil et le prieuré qu'il y avait en face. Sur le point le plus haut, on va y trouver les moulins à vent aussi. Sur le point le plus haut, on va aussi trouver d'autres bâtiments qui sont beaucoup plus récents, les châteaux d'eau par exemple, hein, ce qui permet évidemment d'avoir une meilleure pression vers les maisons en contrebas. Alors la première église, elle était probablement à l'ouest de la seconde église. Hein. Lorsque vous viendrez à Chaly, vous verrez, on voit vaguement l'entrée de l'église qui correspond à un fossé. Et lorsque nous avons fait des fouilles pour reconnaître la nature du porche de cette église, nous sommes tombés, si j'ose dire, sans jeu de mots, par accident, sur le chevet de la première église, chevet qui était encombré d'un nombre assez impressionnant d'ossements. Mais on n'a pas pu continuer les fouilles, n'ayant pas le permis d'ailleurs pour élargir notre champ d'investigation. Donc on a un cloître de grande taille, qui permet de relier les différents lieux de la petite clôture. Hein. Le cloître, c'est le couloir qui va mettre en communication les pièces les plus importantes du monastère. Donc on va pouvoir, à partir du cloître, se rendre à la sacristie, à la salle du chapitre, bien sûr à l'église, au réfectoire, au bâtiment des convers, au bâtiment des autres, etc. Derrière le grand cloître, il y avait deux autres cours qui a été aménagé. On ne va pas parler de cloître, hein, parce qu'il n'y en a qu'un, en réalité, dans une abbaye. Les autres sont des cours, suivis, souvent entourés d'un péristyle. L'une desservait l'infirmerie, l'autre la bibliothèque et le noviciat. On l'appelait aussi la cour du colloque. Et l'autre faisait communiquer le logis du prieur avec celui de l'abbé. Le tout était réuni par un portique de 13 arcades, jusqu'à la chapelle Sainte-Marie. Au nord-ouest de l'église, il y avait une exploitation agricole, une ferme, avec sa pépinière, son colombier, son moulin, mais aussi au sud-ouest, le bâtiment de la pêcherie, les étables, les canaux, une véritable une ferme, en tous les cas, une exploitation agricole d'une grande variété. Et puis devant, une porterie avec sa prison.
Sa prison.
Eh oui, on en parlera bientôt. Et son auberge, qui, d'ailleurs, toutes les deux ont été bâties ultérieurement.
Alors, vous nous avez dit que la construction de la seconde église commence à la fin du XIIe.
Tout à fait, tout à fait. Elle va se poursuivre pendant une vingtaine d'années au début du XIIIe. Disons qu'on a un point de repère puisque l'église est consacrée en 1219. On le verra par des évêques de grand renom. Ceci dit, ce n'est pas parce que l'église est consacrée que ça veut dire pour autant qu'elle a été achevée. Si vous voulez, dès le moment où il y a un espace couvert qui est propre à la liturgie, à l'Eucharistie, à la messe, donc, eh bien, on peut consacrer l'Église. Et puis, par la suite, on peut très bien en augmenter, évidemment, le volume, la taille, en additionnant des travées que l'on construit les unes derrière les autres jusqu'à arriver au portail. Ceci, c'était vrai aussi parce que les conditions financières étaient importantes. Et si les finances venaient à manquer, on interrompait pour un certain temps le chantier. C'est ce qui arrivera souvent, d'ailleurs, dans les cathédrales. Si le chantier des cathédrales dure aussi longtemps, c'est tout simplement parce qu'il y a des espaces blancs qui sont liés à l'absence de financement. Alors, à ce moment-là, les ouvriers quittent le chantier et vont ailleurs. Hein. D'accord. Ce qui est intéressant d'ailleurs à Chialy, à noter dans un premier temps, c'est la dimension de l'église abbatiale. C'est une église qui est faite pour les moines. Donc, il n'y a pas de laïc. D'ailleurs, le chœur est lui-même, on le verra, très, très étroit, parce qu'il n'y a pas de déambulatoire pour venir admirer les reliques. Et ce que je viens de dire, je le complète en disant que c'est un édifice de grande taille, il fait 92 mètres de long.
Et juste pour les moines, il n'y a personne d'autre qui le
fréquente ? Exactement. Alors bien sûr, il y a les invités, mais les nobles personnes, le roi, mais il n'y a pas de laïc. Hein. 92 mètres de long sur 46 mètres au niveau du transept, c'est gros, on peut dire la moitié. Hein. Ce qui fait que c'est un bâtiment qui est beaucoup plus imposant que la cathédrale de Senlis, hein, qui, elle, ne fait en longueur qu'aux environs de 76 mètres. La nef principale fait environ 10 mètres de large, sur 20 mètres de hauteur. Elle est assez semblable à celle de Senlis. Elle a deux bas-côtés de 5 mètres de large. Et sur le côté sud, beaucoup plus tard, on va adjoindre des chapelles latérales. Alors là, pourquoi beaucoup de chapelles ? On en parlera aussi au niveau des croisillons. Bien, il faut savoir qu'au milieu du XIIIe, de nombreux moines sont ordonnés. Donc, ils ont l'obligation de dire une messe par jour, hein, une messe quotidienne. Ce qu'ils vont faire, Donc, dans ces chapelles, il y a un autel. Ce sont des chapelles orientées, là aussi, c'est-à-dire des chapelles qui sont vers l'Orient, vers l'Est. Donc, le prêtre se tient devant l'autel et regarde vers l'Est, qui, je vous le rappelle, correspond à l'orientation de l'Église, c'est-à-dire le lever du soleil, le jour de Pâques. Donc, tous les prêtres disent la messe dans la même direction, en quelque sorte, car on est bien dans une collectivité religieuse et il n'est pas question, évidemment, de distinguer tel ou tel moine ou telle chapelle. Remarquons aussi qu'il y avait aussi un intérêt financier, puisque plus vous avez de chapelles, plus vous êtes dans la possibilité de dire des hobbies, c'est-à-dire des messes de mort. Hein, les messes des morts, bah, ça rapporte un peu d'argent. Bon, on va croire quand même que la liturgie était beaucoup plus importante que l'activité destinée à renflouer les caisses, en quelque sorte. Les travées de la nef sont probablement couvertes de voûtes sexpartites, c'est-à-dire coupées en six. Et l'église elle-même est précédée par un porche à trois portails, avec un toit en appentis, c'est-à-dire à une seule pente, hein, qui ressemble, pour ceux qui connaissent l'abbaye de Pontigny, en Bourgogne, qui ressemble fortement, et les fouilles nous ont permis, évidemment, de le vérifier. Ce qui est exceptionnel, c'est le transept, qui est très développé et qui présente un plan très original.
Le transept.
Alors, le transept, vous savez que le plan de l'église a la forme d'une croix. Donc, la nef correspond à la partie la plus longue et le transept correspond à la partie la plus courte. Le transept est composé de deux parties. Une partie qui est vers le nord, on l'appelle le croisillon nord, et puis une partie vers le sud, le croisillon sud. Et le chœur, très souvent, se trouve à la croisée de la nef et du transept. Le chœur n'étant pas forcément un terme à utiliser en architecture, bien qu'on l'emploie très souvent. Disons que si on veut être un petit peu précis, le chœur, c'est tout simplement l'endroit où on se réunit pour chanter. Hein, ce n'est pas forcément un lieu défini dans l'église. Alors, dans ces transepts, ce qui est original, c'est qu'il y a sept chapelles dans chaque croisillon. Et dans ces sept chapelles, il y a quatre chapelles hexagonales et trois rectangulaires. Bon, au Moyen-Âge, on dit qu'elles sont carrées. On ne connaît pas un tel plan dans d'autres bâtis médiévaux. Certes, les chapelles des croisillons de Nanteuil ressemblent aux chapelles du chœur de Pontigny. Et le seul plan qu'on puisse rapprocher de Chaly, c'est celui de l'abbatiale de Notre-Dame de Quincy, qui se trouve près de Tonnerre. Alors attention, il y a beaucoup de Quincy en Bourgogne, il y en a aussi au bord de la Marne d'ailleurs. Et cette abbaye a été fondée 4 ans avant Chaly. Alors, il y a eu des prospections qui ont été réalisées à Quincy par des sondages, je dirais, électriques, c'est-à-dire qu'on enfonce des tringles dans le sol et on envoie un courant et on regarde quelle est la résistivité des terres qui se trouvent sous la surface. Et ainsi, on peut retrouver s'il y a des traces de fondation, s'il y a des traces d'un mur particulier, sans avoir à faire de prospection invasive, c'est-à-dire de prendre la pelle, la pioche et de faire des trous. Hein, n'oubliez pas que lorsqu'un archéologue fait des fouilles, eh bien, il supprime complètement l'histoire des lieux. C'est définitif. D'où, évidemment, la nécessité pour l'archéologue de faire des relevés de grande précision. Même s'il ne pense pas sur le coup que c'est important, il faut qu'il le fasse. Parce qu'en fonction du progrès de la science, on peut très bien, par la suite, avoir des instruments qui permettent de trouver des renseignements qu'on n'est pas capable encore actuellement de discerner. Hein. Donc, c'est un véritable travail de bijoutier auquel doit s'astreindre l'archéologue, avec en plus un repérage, les mesures, le travail en laboratoire, etc. Donc, voilà à peu près, si vous voulez, le plan de l'abbaye, de l'église abbatiale de Chaly. J'ajouterai simplement que selon les préceptes de Bernard, préceptes d'humilité, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, il n'y a jamais de clocher de haute taille dans les abbatiales. Parce qu'il ne faut pas avoir cette volonté de domination qu'on peut avoir quand on habite un château fort ou une cathédrale. Hein, on a assisté évidemment à une espèce de record du monde de la hauteur des cathédrales. Dans notre région, on est bien placé, oui, puisque Beauvais a un chœur le plus haut du monde. Bon, pour le clocher, il s'est effondré. On ne pourra pas, évidemment, être aussi fier que ça. Donc, pas de clocher de haute taille. Et, bon, la partie la plus haute culmine à 34 mètres. En comparaison, puisque je parlais de la cathédrale de Senlis, celle de Senlis culmine, elle, à 78 mètres. Bien que le bâtiment soit plus petit. Donc un clocher qui dominerait le paysage serait un symbole d'orgueil ou de vanité. On peut quand même noter que les travaux de Notre-Dame avaient commencé vers 1163 et que ceux de la cathédrale de Senlis débutent vers 1151. Donc on peut penser que l'église abbatiale de Chély, elle, se met en œuvre vers 1190 environ. Alors, on pourrait parler longuement de la cathédrale de Senlis, qui est tout à fait intéressante, d'autant plus que Senlis, à l'époque, c'est une ville frontalière, à la limite du domaine royal, à laquelle les Capétiens, on l'a vu, sont profondément attachés. Et les relations entre les évêques de Senlis, le roi et son conseiller, sont fréquents. À noter quand même que ce sont les évêques eux-mêmes de Senlis qui ont financé la cathédrale. Là aussi, ce sont des relations très particulières. Quand l'évêque engage sa propre fortune, quand il accepte évidemment la coiffe épiscopale, et on peut dire que sa propre fortune est complètement fondue dans le budget de la cathédrale. Et lorsqu'il meurt, c'est la même chose. On va récupérer l'ensemble de la fortune de l'évêque compris. Je serai d'ailleurs très attentif à vous dire que, surtout, il ne faut pas penser pouvoir imaginer le Moyen-Âge avec nos façons d'appréhender les choses de nos jours. On ne peut pas, à notre lumière, bien comprendre la vie sociale au Moyen-Âge sans faire l'effort de se dire que bien, les notions de propriété, par exemple, n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons maintenant, que les divisions spatiales, les divisions dans l'espace, en quelque sorte, qu'elles soient agricoles, qu'elles soient fiscales, n'ont rien à voir avec celles que nous connaissons de nos jours. On n'est pas propriétaire comme ça, ou alors on partage, c'est une multipropriété, en quelque sorte. Donc, à chaque fois, il faut se dire que nous devons être très prudents quand on considère la société médiévale, de ne pas projeter nos propres schémas sur cette étude. Ce qui était peut-être à noter quand même, c'est que l'abbaye de Chély est manifestement la première église abbatiale cistercienne de style gothique.
De style gothique ?
Eh oui, de style gothique, mais ça, on va bientôt en reparler.